On a tous un peu ce souvenir, non? Entrer dans un de ces grands immeubles de bureaux tout en verre, en plein été, on passe la porte et... Paf! C'est la fournaise. Moi, c'était pour un entretien d'embauche. 25e étage, à la Défense. Je crois que j'ai plus transpiré à cause de l'effet de serre qu'à cause du stress.
Ah oui, le fameux bocal.
Exactement. Et justement, la source sur laquelle on se penche aujourd'hui s'ouvre sur un témoignage qui résume ça parfaitement. La personne dit: on suffoque de chaleur, il y a des baies vitrées à tous les étages.
C'est le quotidien de milliers de personnes, en fait.
Et c'est là qu'intervient la présentation qu'on a sous les yeux. Elle vient d'une entreprise, Precast First, et il propose une idée qui pourrait bien tout changer en matière d'isolation thermique. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer ça.
Et ce qui est passionnant, je trouve, c'est que l'idée de départ, elle va vraiment à l'encontre de tout ce qu'on fait d'habitude.
C'est-à-dire?
Ben, en général, en isolation, on se bat contre la physique. On essaye de tout bloquer. Là, c'est l'inverse. Au lieu de combattre la convection thermique, ce système l'utilise. Il la met à son service.
La convection, juste pour rappel, c'est le mouvement de l'air, c'est ça?
C'est ça. L'air chaud est plus léger, donc il monte. L'air froid, plus dense, il descend. C'est la gravité qui dicte ça, on ne peut rien y faire. Et le postulat ici, c'est puisqu'on ne peut pas éteindre la gravité, autant être malin et travailler avec.
Travailler avec la physique plutôt que contre elle. J'aime bien la philosophie. Mais alors, une idée comme ça vient d'où? Souvent, les grandes innovations naissent d'un truc tout bête.
C'est complètement le cas ici. Et c'est presque drôle. D'après le document, l'inspiration vient d'un objet qu'on a tous déjà vu, une simple fenêtre à Louvre.
À Louvre. Vous voulez dire les fenêtres à jalousie, avec les lamelles en verre qu'on incline?
Celle-là même, celle qu'on voit dans les maisons de vacances un peu vieillottes.
Non mais c'est une blague. La solution pour les tours de verre ultra-modernes se cacherait dans un objet de bungalow?
C'est ça, le moment Eureka. La source explique que si on prend ce système de lamelles inclinées et qu'on le coince entre deux vitres, une à l'intérieur et une à l'extérieur,
Ah d'accord, je vois.
on obtient une sorte de double vitrage, mais dont l'espace est rempli de petites diagonales en verre. Et voilà, le concept est né.
Ça paraît presque trop simple, hein.
C'est là que réside toute l'ingéniosité. Et ce principe, il s'applique pas qu'aux fenêtres. On peut imaginer des murs entiers à double paroi comme ça. L'idée de fond, c'est d'accepter que la convection, elle sera toujours là. L'air va bouger. Donc la question, c'est plus de l'arrêter, mais de le guider.
Ces diagonales deviennent des sortes de rails pour l'air, en fait.
Exactement. On le canalise.
D'accord. Pour bien comprendre à quel point c'est malin, il faut qu'on compare avec ce qui se fait aujourd'hui. C'est quoi la méthode classique pour un double vitrage au laissant? Comment on lutte contre cette convection?
Alors la méthode classique, c'est un peu l'approche en force. Dans un double vitrage normal, on cherche à rendre l'air immobile. Pour ça, on réduit au maximum l'épaisseur de la lame d'air entre les deux vitres.
Pourquoi?
L'idée, c'est que si l'espace est très très fin, l'air n'a tout simplement pas assez de place pour démarrer son cycle. Tu sais, chauffer, monter, refroidir, redescendre. On essaye de l'étouffer, quoi.
D'accord, donc c'est comme mettre un couvercle très bas sur une casserole pour empêcher l'eau de bouillir vraiment. Mais j'imagine que ça a ses limites, surtout sur une façade de 40 étages en plein soleil.
Ça a ses limites, oui. C'est une lutte constante. Et c'est là que le système de Precast First est radicalement différent. Il ne cherche pas à arrêter la convection, il la pirate. Il la freine et surtout, il la dirige.
Comment?
En hiver, par exemple, l'air se réchauffe au contact de la vitre intérieure. Il veut monter, normal, mais très vite, paf, il se heurte à une diagonale, une sorte de petite rampe qui le bloque. Il se retrouve coincé.
Attendez, si je comprends bien, on ne se contente pas d'isoler du froid extérieur. On transforme la fenêtre elle-même en une sorte de piège à chaleur qui garde la chaleur produite à l'intérieur. C'est ça?
C'est tout à fait ça. On ne bloque pas le mouvement, on le capture là où il nous est utile. L'air chaud est piégé contre la paroi qu'on cherche justement à chauffer.
C'est génial.
Et la source va même plus loin. Elle distingue deux versions. Le système unidirectionnel, optimisé pour l'hiver, comme on vient de le décrire,
Aïe.
et puis ils ont une version bidirectionnelle.
Encore plus maligne, j'imagine.
Oui, sa géométrie est pensée pour être efficace aussi en été. Pendant les mois chauds, le système va cette fois piéger l'air frais contre la vitre intérieure. Ça crée une barrière qui empêche la chaleur extérieure de rentrer.
Le tout sans aucune pièce mobile, sans électronique, juste par la forme.
Juste par la géométrie, c'est une structure physique qui s'adapte aux saisons.
C'est bluffant. Je pense aux architectes. Si on leur donne un outil pareil, ça doit dynamiter leur façon de concevoir les bâtiments, non?
Ah, ça pourrait changer énormément de choses. Aujourd'hui, une des règles d'or, c'est d'éviter les immenses baies vitrées sur les façades sud et ouest pour pas surchauffer.
Oui, la base de l'architecture bioclimatique.
Exactement. Ben, avec un système d'isolation comme celui-là, s'il tient ses promesses, cette contrainte pourrait être largement assouplie. Les architectes retrouveraient une liberté de conception énorme.
Pour faire des espaces plus ouverts, plus lumineux.
Hein, sans sacrifier le confort ni faire exploser la facture de clim.
D'accord, mais plus de verre, ça veut dire aussi plus de lumière directe, peut-être d'éblouissement. Et je pense à la fabrication. Ces petites diagonales, c'est pas hyper fragile?
Ce sont d'excellentes questions. Et la source y répond. Pour la fragilité, c'est un défi, mais on sait faire du verre très résistant. Mais surtout, pour la chaleur et la lumière, la présentation insiste sur deux points.
Lesquels non?
Premièrement, l'épaisseur des diagonales peut être minime. On parle d'un millimètre. Donc l'impact sur la luminosité et la clarté de la vue serait très faible. Et deuxièmement, et ça c'est fondamental, ce système doit être couplé avec des films anti-radiation.
Ah, voilà. Ce n'est pas une solution miracle toute seule.
Absolument pas. Il faut se rappeler qu'il y a trois modes de transfert de chaleur. La conduction, le contact, que le double vitrage limite déjà. La convection, le mouvement de l'air, que les diagonales maîtrisent.
Et le troisième, c'est le rayonnement.
Exactement. La chaleur du soleil qu'on sent sur la peau. Contre ça, les diagonales en verre ne peuvent rien. C'est là que les films entrent en jeu. Ils agissent comme un miroir invisible qui renvoie la chaleur, vers l'extérieur en été et vers l'intérieur en hiver.
C'est l'association des deux qui fait la performance.
C'est la clé.
C'est beaucoup plus clair. Et si on change les règles pour un bâtiment, ça doit avoir un impact à plus grande échelle, sur la façon dont on pense la ville, un quartier.
C'est l'effet domino. Si l'orientation d'un bâtiment par rapport au soleil devient une contrainte moins forte, ça simplifie énormément la vie des urbanistes.
Ah oui.
Ben oui. Aujourd'hui, dessiner un nouveau lotissement, c'est un vrai casse-tête pour que chaque bâtiment ait une bonne exposition. Avec des façades ultra-performantes, quelle que soit leur orientation, on gagne une flexibilité énorme. On peut se concentrer sur d'autres choses, la circulation, les vues, les espaces publics.
La course du soleil ne dicte plus tout.
Voilà.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que des promoteurs se disent « Super, la techno gère tout » et qu'ils construisent des bâtiments moins bien pensés sur d'autres aspects, juste parce que c'est plus simple?
C'est le revers potentiel de toute innovation. Elle peut être un outil formidable ou un prétexte pour faire des économies au détriment de la qualité. La responsabilité resterait aux architectes et aux urbanistes d'utiliser cette liberté intelligemment. Mais l'outil, lui, il ouvre le champ des possibles.
Dans tous les cas, la source insiste vraiment sur un type de bâtiment, le bénéficiaire idéal, le gratte-ciel. Pourquoi cette obsession pour les tours?
Parce qu'elles sont l'incarnation du problème. Un gratte-ciel, c'est une anomalie thermique. Une surface verticale gigantesque exposée au vent, au soleil.
C'est vrai que, quelle que soit l'heure, il y a toujours une façade qui prend le soleil en pleine face.
Toujours. Des centaines, des milliers de mètres carrés. C'est un défi énergétique colossal. Le témoignage de l'employé de La Défense, c'est le symptôme parfait de ça. Et pour ces tours, l'approche combinée dont on parlait prend tout son sens.
La solution triple action en quelque sorte.
C'est ça. L'association des diagonales et des films s'attaque aux trois modes de transfert de chaleur en même temps. La conduction est limitée, la convection est maîtrisée et le rayonnement est bloqué. On aurait potentiellement une armure thermique complète spécifiquement adaptée à ce défi.
Rendre ces géants de verre habitables et économes en énergie.
C'est l'enjeu.
Bon, tout ça est incroyablement prometteur, presque trop beau pour être vrai. Ce qui nous amène à la question de la crédibilité. Est-ce qu'on parle d'une idée sur un coin de table ou est-ce que c'est du concret?
C'est la question essentielle, et la source est assez transparente là-dessus. Ce n'est pas de la science-fiction. Le document contient une preuve, un scan d'un accusé de réception de l'USPTO.
Ah, l'USPTO, le Bureau américain des brevets. Donc c'est du sérieux.
Très sérieux. On voit qu'une demande de brevet provisoire a été déposée. Le document est daté du 4 mars 2025.
D'accord.
Et le titre de l'invention, c'est Thermal Insulation Using Trapped Fluids, soit isolation thermique par utilisation de fluides piégés, fluides incluant les gaz comme l'air.
Et déposer un brevet provisoire, ça veut dire quoi concrètement?
Ça veut dire que le concept est suffisamment défini et documenté pour être protégé. Ce n'est pas encore un produit sur le marché, bien sûr, mais ça montre que Precast First est engagé dans le processus de développement et de protection de son idée.
D'accord. Et ça nous donne une idée du calendrier. On peut espérer voir ça dans nos villes d'ici combien de temps? 5 ans? 10 ans?
C'est difficile à dire. Le cycle de développement dans le bâtiment est assez long. Entre le brevet, les prototypes, les tests en laboratoire, les certifications, les essais sur des bâtiments pilotes.
Ça prend du temps.
Oui.
On peut raisonnablement penser qu'il faudrait au moins 5 à 10 ans avant une application à grande échelle, si tout va bien. Mais la première étape, la protection de l'idée, elle est franchie.
Très bien. Si on devait résumer les points clés de cette analyse, on dirait donc, premièrement, un concept d'isolation à contre-courant, qui utilise la physique à son avantage.
Plutôt que de lutter contre.
Deuxièmement, une idée qui naît d'un objet aussi simple qu'une vieille fenêtre à Louvre.
C'est l'inspiration inattendue, oui.
Et troisièmement, des implications potentiellement énormes pour l'architecture, l'urbanisme et surtout pour le grand défi de nos métropoles, les gratte-ciels. C'est une excellente synthèse. Le principe à retenir, c'est vraiment l'élégance de la solution. Une simple disposition géométrique qui manipule les flux d'air pour piéger la chaleur ou la fraîcheur là où on en a besoin. L'ingéniosité de la forme.
Et ça laisse songeur. Si on peut repenser de manière aussi radicale un truc aussi basique que la lame d'air dans une fenêtre, un espace qu'on a toujours vu comme juste passif.
Ben, alors ça ouvre une question fascinante. Quels autres systèmes passifs de notre environnement bâti ne sont en fait que des potentiels qu'on n'exploite pas?
Comme quoi?
Ben, on peut imaginer des murs, des toitures, peut-être même des revêtements de rue qui, par leur simple forme, leur texture, pourraient travailler activement pour nous, en utilisant la convection, la gravité, le vent.
Au lieu de lutter sans cesse contre ses forces.
Exactement.
La vraie question, au fond, c'est peut-être de se demander où, tout autour de nous, se cache la prochaine fenêtre à Louvre.